Rencontre autour du festival Interférence au Centre Wallonie-Bruxelles. Une émission préparée par Elsa Vétier pour Du Radio.
J'ai le plaisir d'être avec Laurent Gérard, alias Elg, et Vincent Eplet au Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre du festival Interférence, au sein duquel vous êtes tous les deux programmés. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Elsa.
Alors hier, j'ai pu assister d'une part au concert projection de Vincent Eplet, Mnémotechnie, sur lequel on reviendra, et au focus consacré à Elg. En fait, c'est une sorte de rétrospective un peu partielle, où on avait la possibilité d'écouter 6 albums que tu as écrits depuis 2009. Ces albums, ils sont très différents les uns des autres, assez difficiles à définir dans leur ensemble. Une sorte de télescopage de mots et de sons analogiques et numériques, de mélodies rapidement abandonnées, d'histoires un peu absurdes. Hier soir, ces albums étaient diffusés dans une salle de cinéma plongée dans le noir, où rien n'était projeté sur l'écran. Est-ce que c'est un bon endroit pour écouter ta musique indéfinissable, Laurent ?
Bah, c'était l'idée d'essayer de présenter une écoute sur ces albums qui me semblait propice à une immersion d'écoute un peu différente. Et je pense qu'il y a un fil rouge qui les relie. Et puis il y a une évolution chronologique, ça va de 2009 à 2018. Et je pense que c'était bon de suivre cette évolution, enfin pour ceux qui voulaient bien écouter les 6 diffusions. Et je pense que cet endroit, ce type d'attention que ça permet, ça me semblait plutôt pertinent. Enfin, ça valait le coup de moins d'essayer, spécialement pour des créations comme Move Zone, qui sont 2 pièces de 18 minutes, qui pour moi ont toujours été pensées comme des... Je dirais pas du cinéma pour l'oreille, quoi, mais en tout cas, ça faisait sens pour moi hier. Parce que je me suis permis de réécouter certaines de mes compositions pour voir ce que ça donnait, et ça matchait pour le coup.
C'est vrai que c'est un contexte assez rare, en fait, pour écouter de la musique, d'être vraiment plongé dans le noir, et totalement disponible à ce qu'on écoute. Et c'est forcément la question que pose aussi ce genre de manifestation, comme le Festival Interférence, où on écoute principalement du son en centre culturel. Alors, je me tourne vers toi, Vincent, puisque tu te définis comme musicien et plasticien, et que tu dis justement créer des situations d'écoute. Qu'est-ce qu'une bonne situation d'écoute, en fait ?
Il n'y en a pas une déjà, il y en a certainement plusieurs. Après, les bonnes situations d'écoute, c'est disons que pour moi en tout cas, ça ne se place pas sur l'idée d'une bonne ou d'une mauvaise, c'est juste c'est créer les contextes, c'est jouer avec un contexte, ou en tout cas se confronter à une situation qui permet des fois de mettre en place des dispositifs qui sont changeants et mouvants en fonction justement du contexte de la situation et d'un auditoire potentiel. On peut s'adresser à une personne, à 10, 20, voilà, moi je... Mais c'est... disons que ça... Ces choses-là, je les ai souvent pensées par rapport à des dispositifs que j'avais mis en place, que je module en fonction des endroits et des propositions qui me sont faites. Et c'est plutôt de l'ordre de... Moi, j'appelle jamais ça installation, parce que justement, je ne m'installe pas vraiment, mais plutôt effectivement un dispositif que je déplace et que je module, des fois même le temps que c'est de la présentation, de l'installation, quoi, du dispositif mis en place. Et que ce soit par rapport à des contenus qui peuvent évoluer, si c'est présenté pendant un mois, il y a des choses qui peuvent se construire au fur et à mesure. Bon, ça, c'est des choses que j'ai fait déjà il y a un petit moment. Je suis un peu moins coutumier en ce moment, je suis un peu moins dans ça. Je suis plus dans des choses qui sont liées à du concert. Ça peut m'arriver encore de sévir là-dedans. Quoi, c'est lié à des invitations, des choses, des propositions qui peuvent m'être faites. Et puis, les dernières que j'ai faites, c'était plutôt en extérieur. Voilà, des choses où, notamment, où les gens qui peuvent écouter ça, ou en tout cas le recevoir. Parce que l'idée d'écoute, c'est des fois aussi la réception, comme ça, qui arrive d'une manière complètement fortuite et qui n'est pas du tout... les gens ne savent pas forcément. Moi, ça m'intéressait aussi de jouer sur des effets comme ça, pas de surprise, mais en tout cas, les choses font partie de l'environnement, sont là, et à un moment, il y a une attention qui peut se produire ou pas, quoi, en fait, parce que l'idée de l'écoute, elle est complètement aléatoire. En général, en tout cas, dans les dispositifs que j'avais pu mettre en place, les gens sont très peu disponibles et écoutent très peu de temps, en règle générale. C'est plutôt, voilà, j'avais un peu observé ça, mais et puis je trouve ça, c'est pas un problème, quoi, en fait. C'est juste qu'à un moment, comment l'attention se produit, même si elle est d'une minute, voilà. Et c'est plutôt un appel comme ça qui se produit sur un instant, quoi, mais c'est tout, quoi. Mais
pour rebondir là, sur ce que dit Vincent, c'est vrai que j'avais envie de vérifier ça aussi,
parce l'attention
que,
du public,
parce que moi je vois. Ce sont des albums, ça a été dit en disque de mon côté, ça n'a jamais été pensé ni comme des installations ou des installations nomades. Mais c'est toujours une idée de voyage en tout cas. Pour moi, le voyage, il doit se faire jusqu'au bout, et je voulais voir à quel point les gens pouvaient faire le voyage jusqu'au bout pour chaque diffusion en fait.
Alors est-ce que les gens sont restés
pas
pour ces albums?
Très peu. Mais après, c'est parce qu'il se passe plusieurs choses en même temps qu'ils se télescopent en fait, donc... voilà, et puis vu qu'il y a une jauge assez réduite dans le festival du contexte, c'était un peu clairsemé, mais après si j'ai pu parler à deux ou trois personnes, mais je voulais voir un peu justement si l'attention tenait jusqu'au bout, mais c'était pas mal de vérifier ça aussi.
Moi, je me suis aussi fait la réflexion qu'il y avait des albums, enfin notamment un album, le premier que tu diffusais hier, qui est donc je pense le plus ancien, enfin celui de 2009, Capitaine Présence 5, ouais. Qui était difficile à écouter ailleurs que dans une salle noire en fait. C'est-à-dire qu'il y a une telle saturation de voix qui se coupe la parole, de bruit,
ouais.
Qu'en fait, cette pièce, on peut l'entendre, enfin cet album, tu vois, je parle de pièce, mais on peut l'entendre que si on est vraiment totalement disponible.
Un peu comme sur la chaise du dentiste, Capitaine Présence 5, ouais, parce que c'est furieux, quoi.
Ouais.
On est dans ma tête en 2009, et effectivement, je me suis rendu compte là, hier, rétrospectivement, que waouh, c'était ma dernière année à Paris. Je me suis dit que oui, c'est une très bonne idée que je parte de Paris. Ça, en tout cas, j'ai pu vérifier ça hier.
Tu l'as qualifié de boule indigeste,
ouais.
Après la diffusion. Et c'est vrai que je pense que le noir complet était l'absence totale de perturbations autres, en tout cas, était bienvenue, quoi, pour cette écoute. Alors le concert peut être aussi un dispositif, tu disais que là en ce moment tu te concentrais plus, Vincent, sur des concerts, mais ça peut être un dispositif en soi, on l'a vu hier pour la projection, donc concert que vous avez donné en face à face avec Timo Van Luuk, ou sur vos tables respectives, donc qui étaient équipées de consoles, mais aussi de petits objets, je ne sais pas si on peut parler d'instruments, moi je n'ai pas reconnu vraiment d'instruments, mais plutôt des petits objets qui grattent, qui grincent, qui pleurent.
Ça, c'est plus
un
pour
peu.
La partie de Timo, en fait. Qui, lui,
voilà,
était
lui
vraiment,
avait ça sur sa table.
Très acoustique, électroacoustique, c'est-à-dire il avait... des petits instruments qu'il a fabriqués à partir de piano d'enfant, quoi. J'ai pas les détails exacts, mais c'est vraiment des choses assez simples, assez rudimentaires. Une platine, pas mal d'éléments un type d'instrumentarium qu'on trouve notamment lié à une musique improvisée, quoi. Bon, après chacun se fait un peu sa cuisine avec tout ça, mais en tout cas, bon, Timo, ouais, il était plus dans ce registre là c'est-à-dire des éléments plus acoustiques amplifiés par un micro contact ou des choses comme ça. Et moi, un peu plus feignant, j'étais avec des petits boutons et un peu de
une sorte de télécommande aussi. Qui,
Ça, c'est un capteur de fréquence magnétique, en fait, qui permet de faire de capter les fréquences de tout ce qui est impulsion électrique, en fait. Histoire de savoir qui avait laissé son téléphone portable allumé dans la salle pour voir un peu si...
Combien de personnes, alors ?
En tout cas, il y avait beaucoup de monde.
La salle était pleine avec un siège d'intervalle.
Voilà.
C'est un truc que tu as bricolé toi-même ?
Non, tu sais, c'est des trucs qu'on peut faire quand on a un petit fer à souder. C'est pas très compliqué, mais maintenant, il y a des mecs qui le font pour toi.
Mais c'est le russe, là? C'est le truc du russe? J'ai vu le truc sa main, mais ça a l'air assez délirant, ce truc.
Ouais. C'est un truc pas mal. Je sais plus, il y a 2-3 marques qui avaient déjà vu, mais celui-là, il est pas mal, je trouve.
J'ai vu les vidéos du type qui se trimballe dans des wagons de train.
Voilà,
Parce qu'en fait, donc, ce qu'il faut dire, c'est que vous jouez en face, enfin, hier soir, en tout cas, vous jouiez en face d'une projection qui est une sorte de montage d'archives en fait qui questionne la mémoire du son, enfin tous ces sons un peu oubliés ou ces expérimentations en tout cas bruitistes concrètes, comment tu les qualifies?
En fait, pour revenir, l'idée du film, en fait, c'est un truc. Bon, moi, je fais des films aussi comme ça depuis un petit moment, que je présente souvent dans les contextes de concerts et rarement en projection fixe, même si ça a pu m'arriver. Mais au départ, c'était plutôt dédié à l'idée de pouvoir travailler avec ces films en direct. Et c'est un peu une question. L'idée de projeter, c'est toujours compliqué en fait quand on fait un concert, parce que ça oriente l'écoute en fait, ça réduit le champ quand même par rapport à l'auditoire. C'est voilà, ça oriente quelque chose. Et je trouve que c'est espèce de challenge un peu. Il faut négocier un truc avec ces histoires-là. Et bon. Après, moi, l'idée des films, c'est aussi... moi, je dis que c'est un peu des films partitions, dans le sens que ça définit des séquences, des temporalités, parce que j'interviens pas en direct sur l'image, en fait. C'est pas du VJing, tout ça, il n'y a pas de... Et ces films, qui effectivement, c'est une série. Là, il y en avait un qui était présenté, mais dans le hall, il y en a deux en extrait, là, qui sont montrés, qui normalement sont aussi joués en direct, comme ça, en live, à partir du son. Du coup, ces films constituent, notamment celui-là d'hier soir, où il y a pas mal de personnages qui réfèrent plus ou moins à des expériences musicales de différentes époques. Alors des choses plus connues, plus référencées, type expérience du GRM, de Karl Stroh, de tout ça, de Atelier Bachet. Bon, des choses qui, pour les gens qui s'intéressent à ces histoires-là, ils le reconnaissent assez vite, même si tout ça, c'est quand même très, très entremêlé de beaucoup d'éléments. Et puis après, il y a d'autres choses qui sont complètement liées à des choses un peu extra-musicales ou des présences de personnages, de choses qui ne sont pas identifiées vraiment et ou connues ou reconnaissables. Et après, aussi, dans ce principe de montage autour d'archives, j'ai fait un peu les fonds de tiroir je prends des bouts de films souvent assez courts qui sont pour la plupart sans signature d'auteur, de réalisateur en fait. C'est pas des choses référencées à des films type de fiction cinématographique ou des choses. Ça reste vraiment dans les films qui sont liés à de l'archivage et qui sont surtout liés à des choses documentaires, pédagogiques, institutionnelles. Voilà, c'est la fonction originelle de ces films n'était pas du tout en tout cas, elle était là-dedans, quoi. Elle était plus de faire connaître ce type d'expérience ou de recherche, des fois plus ou moins grand public ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est du coup, ça me laisse un champ assez assez vaste et libre, quoi. En tout cas, voilà. Et puis dans le contenu ou de ce que ça peut avoir, voilà, on sait que c'est des choses un peu comme ça qui sont un peu fantomatiques, pas forcément très identifiables. Et puis après, c'est vraiment travailler avec une notion de superposition, de couches, d'éléments qui s'entrechoquent. C'est très très perturbé, quoi, ou assez interférer, quoi. Et voilà, bon. Et puis moi, je me fais un petit théâtre avec ça. C'est comme si j'augmentais, je jouais avec un énorme orchestre, en fait, et je peux convoquer des personnages successivement que j'aurais pas les moyens de me payer, en fait. Voilà, du coup, ils sont quand même là, et je les fais venir plus ou moins par rapport au son, en fait. Je peux extraire des parties Il n'y a pas tellement de son finalement dans le film, mais il y a des parties de synchro où il y a un peu de parole ou où un personnage qui va taper sur une table. Ou voilà. Bon. Et du coup, suivant le moment, quoi, dans le jeu, comme ça, je peux injecter comme ça les parties du film qui sont retraitées en direct, filtrées. Voilà. Et du coup, ça fait. En fait, hier soir, je trouvais que le dispositif de le jouer à trois, c'était vraiment pas mal parce que ça circule entre ce que produit Timo, qui aussi, lui, ne sert pas du tout des sons du film, mais voilà, et on produit ton improvisation comme ça, voilà. Et moi, je travaille plus en direct avec ce qui se produit à l'image dans le sens du sonore. Et puis, ça circule en fait, ça circule sur ces trois modules, trois présences. Et du coup, pour nous, c'était plus marrant à faire que quand je le fais tout seul. Je suis un peu au bout d'un moment, je ne sais plus trop quoi leur dire. Et puis voilà.
Je vous propose justement qu'on écoute un extrait de Mnémotechnie.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Uczęszczasz szkoły całym zdaniem.
Ja uczęszczam do technikum skórzanego.
Halo, czy to Warszawa? 32 69 50. Tu mówi Lublin Echo. Proszę ćwiczyć.
Halo, jak słyszysz echo?
Dobrze.
Co masz na jutro zadane?
Na jutro mam zadane 3 zadania.
I co jeszcze?
Polski to nic, bo pan nie było.
Także mam jeszcze do dyspozycji tydzień czasu. A teraz zdejmiemy słuchawki. Jaki egzamin będzie następny?
Następny egzamin będzie z chemii fizycznej. Dlatego zdawam gdzieś mniej więcej za tydzień czasu.
Donc Vincent, tu nous as un peu expliqué ce qu'on entend dans cet extrait. C'est vrai que quand on assiste au concert, il y a un jeu effectivement de superposition, parfois de dissonance avec ce qu'on voit à l'écran. Mm-hmm. Le film, effectivement, Il sert de ce que tu disais, de support, un peu de partition. Et la musique vient comme ça se placer plus ou moins en harmonie. Enfin, on va dire en harmonie, c'est pas vraiment le mot, mais en conjonction parfois avec ce qui est à l'écran et parfois justement à côté de ce qu'on peut envisager.
C'est des éléments, il faut qu'il y a une autonomie de chacun en fait autour de ça. Et puis c'est comment ça se confronte, ça part des fois dans des directions, on part tous dans la même, et puis après ça circule autour de tout ça, et c'est ce jeu de d'aller-retour entre ce qui se produit à l'écran, de nous, ce qu'on peut faire sur scène. Voilà, c'est un peu cette idée-là, et je pense qu'elle est assez explicité et bien énoncé pour qu'on le saisisse, ce principe-là, on peut le capter assez vite. Et puis à partir d'un dispositif qui est ce que je disais au départ, qui crée un focus sur l'écoute, c'est-à-dire la présence de cette image centrale comme ça, qui va réduire quand même une partie du champ potentiellement de ce qu'on peut avoir quand on a juste une écoute sans, ou en tout cas quand on entend un concert sans projection. C'est une manière aussi, à partir d'un moins pour faire un plus aussi, passer sur autre chose, quoi. Et c'est un peu cette question-là que j'ai pas résolue complètement, mais je me dis, voilà, à partir de l'idée de projeter des images, c'est aussi qu'est-ce qui se produit avec ça, et sans rentrer dans le principe de l'illustration, du ciné-concert, de toutes ces choses-là que je trouve des fois pas évidentes, dans le sens de quoi, ce rapport-là, de faire de la musique en direct à partir d'images, c'est pas évident. Là, c'est pas à partir, mais c'est aussi avec. Et, ou sans, ou contre aussi. C'est un peu comme quand on peut converser, en fait. On n'est pas toujours d'accord.
Toi, Laurent, comment tu te positionnes par rapport au film quand tu composes notamment la bande originale de film? Je pense aux Particules, qui est donc ce film de 2019 de Blaise Harrison. Harrison. Quel rapport tu entretiens au film quand tu composes pour, en un sens, enfin, en tout cas avec cette base-là?
Pour ou avec l'image, ouais. C'est vaste question, vaste débat, vaste réflexion autour de l'image et du son, quoi. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'a toujours posé problème. Enfin, ça pose problème, disons que ça pose des questions, des questions assez béantes.
Donc,
j'ai
quoi,
pas toujours
les
réponses. Mais évidemment, il y a toujours, c'est un chemin qui est semé d'embûches et de pièges divers et variés. Alors, ciné-concert, oui, si c'est Ennio Morricone ou John Williams qui refont la musique symphonique des Dents de la Mer ou de Il était une fois dans l'Ouest, on est dans quelque chose d'assez cohérent, spectaculaire, qui, moi, me semble superflu en soi, mais bon, je comprends, c'est légitime. La question de la musique d'un film qu'on compose, c'est, par exemple, j'ai fait quelques musiques de films, mais c'est vrai qu'en général, j'ai toujours la chance de travailler avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui s'intéressent au son dès le début du projet, donc le son est toujours réfléchi en amont, et c'est toujours quelque chose qui s'infiltre dans les failles du film, très tôt dès l'écriture, donc en général, je suis réquisitionné assez vite, et on réfléchit ensemble, c'est-à-dire que les choses sont greffées très vite, en fait, elles se lient, elles se tressent de façon très rapide, donc j'ai l'impression qu'il y a un tout qui est cohérent, et que pour moi, une bonne musique de film, c'est quelque chose qui complète l'image, qui dialogue avec l'image et qui donne à entendre ce qu'on voit pas, et on permet et inversement. Et par exemple, pour les particules, c'est typiquement ça. En fait, c'est une présence que l'image ne pourrait à aucun moment mettre en avant comme ça. C'est quelque chose de très complémentaire qu'on a, j'espère, plus ou moins bien réussi. Et parfois, ça va souligner certaines actions, ça va jouer sur la ponctuation. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est délicat, qui est difficile, qui est acrobatique, quoi, et que je trouve passionnant. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. C'est sûr que c'est vrai que, par exemple, je joue dans un duo qui s'appelle Opéra Mort, duo d'électronique, et je sais qu'on a déjà dû faire une fois un ciné-concert, je sais qu'on a, longtemps hésité à dire oui, parce que je sais très bien le type de problématiques qui vont être posées, et à chaque fois, je trouve que c'est un challenge épuisant. Parce que tout constamment la question de mais il n'y a pas besoin de musique, on revient régulièrement. Après, récemment, je lisais une interview de Mika Levy, qui est une compositrice de musique de film très connue maintenant. Elle a fait la bande originale du film, s'appelle Monos, c'est un film colombien. Que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs, qui est assez étonnant. J'aimais bien son honnêteté, par exemple, par rapport à la proposition d'un réalisateur qui vient la chercher. Elle lui dit, écoute, ce film est très bien sans musique. Là, j'aime bien qu'on parte de là, en fait. Il n'y a pas besoin de musique. Ou alors, s'il y a besoin de musique, alors il va peut-être falloir repenser une partie du montage ou repenser l'écriture du son direct et du sound design, en fait, aussi, pour que les choses puissent se fondre. Donc c'est sûr que voilà, et là ce n'est que le début de la réflexion, parce que voilà, j'ai commencé un livre de 1500 pages, j'en suis à la préface. Hein, mais...
Alors ça m'intéressait de vous avoir tous les deux en discussion sur ce plateau, pour croiser vos perspectives, notamment sur la question de la recherche sonore, qui me paraît être chez vous un aspect quand même important de votre travail et de votre démarche, au-delà de l'aspect de la composition, justement de l'arrangement, de la mise en œuvre, on va dire. J'ai l'impression que vous passez aussi beaucoup, beaucoup de temps à chercher des sons. Perdu ou qui n'existe pas. Moi, je me posais une question. C'est comment vous faites pour trouver encore des nouveaux sons ? Alors, je ne parle pas de découvrir des nouvelles musiques, tout ça, j'imagine c'est inépuisable, mais vraiment de matière première, en fait, avec laquelle vous travaillez ensuite.
Ouais, on discutait un petit peu hier déjà et. Je te disais qu'en général, c'était l'attitude. C'est l'attitude qui amène des sons. Mmh. C'est plutôt une intuition qui amène une attitude et ensuite qui amène dans une direction qui permet de trouver des sons. Mais il faut d'abord qu'il y ait une intuition, une attitude derrière. C'est comment dire, il faut qu'il y ait un chemin invisible et qu'on tâtonne au bâton comme ça pour que... Je pense que derrière chaque son, il y a une attitude. Il faut qu'à chaque fois, cette attitude, elle soit présente derrière. Sinon, chercher des sons, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé un peu contre-productif.
C'est un puits sans fond, oui. Puis on peut se noyer, quoi, on peut plus remonter. Mais chercher les sons...
Ou avec une cuillère à café.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est voilà une cuillère à café. Ouais. Enfin, mais c'est le genre de contrainte, ça pourrait me plaire. Ouais.
Et après, j'ai pas la... disons si il y a des choses, elles sont venues comme ça parce que j'étais plutôt dans l'histoire d'être auditeur. Et puis, je suis un peu auditeur de ma musique quand je la fais aussi. Alors du coup, même si c'est un peu une pirouette de dire ça, mais quand même, finalement, je me mets pas derrière. Et puis, je compose pas tant que ça. Finalement, c'est plutôt des fois... En écoutant un disque que j'ai trouvé, j'avais beaucoup travaillé sur des disques sans musique au début, avant de faire ces films, notamment liés à des documents. Je m'étais dit, tiens, je vais faire des compositions à ma façon d'électroacoustique avec juste des petits disques de son d'effect, par exemple, en espèce de musique concrète d'usage et du pauvre en quoi, un peu lo-fi comme ça, en tout cas avec les disques que j'avais, c'était à l'époque, j'avais pas trop de machines non plus, j'avais un petit magnéto et un tourne-disque, du coup c'était et puis ça me semblait très évident, en fait c'est surtout pas c'était pas lié tant au fait de pas avoir d'instruments ou de choses, d'avoir un studio trop développé, mais je sais qu'il y a des... Quoi, pour revenir, pour être précis, par exemple, c'est en lisant les pochettes, je trouvais ça incroyable, les titres et les bruits de les bruits de pas dans la neige. Et quand on écoute la petite séquence qui est liée à ce indice de son effet, j'ai essayé de comprendre comment ils avaient pu imaginer quelqu'un marcher dans la neige avec ce son-là. Quoi. C'était, par exemple, il y avait un tel décalage entre l'énoncé du morceau et ce qui se produisait que moi, ça me faisait penser à tellement autre chose que je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment... c'est une très bonne matière pour... partir du... en fait, moi, j'aime bien faire n'importe quoi, en fait, mais peut-être pas n'importe comment, en fait. C'était un peu l'idée, quoi. Et... après on sait pas ce qui va se passer, quoi. Ça, c'est un peu ça aussi, de prendre des matières sonores comme ça et puis au fur et à mesure il se construit un truc, quelque chose qui ça démarre du petit souvent.
Ouais, c'est des états
ou alors quand
de
on est trop grand, il faut tamiser pour arriver à ne pas se faire trop absorbé, trop enlisé dans des trucs. Mais ça, c'est plus dans le mixage souvent où il y a trop de choses. Quoi, moi, j'avais tendance à, on en dit souvent dans une accumulation, après on réduit. Quoi, mais c'est des étapes quoi, en fait.
Oui, parce que je me faisais la réflexion que notre environnement sonore, il est assez... alors bon, moi je suis pas musicienne, j'expérimente pas avec les sons tous les jours, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce qu'on peut écouter à la radio, on vit en ville, enfin moi je vis en ville, donc en fait j'ai l'impression que l'environnement sonore il est souvent assez, enfin toujours un peu le même, et puis il est assez toujours un peu similaire. Donc c'est pour ça, c'était ma curiosité, c'était comment on arrive à trouver, en fait, à percer un peu dans cette uniformité, on va dire, du son pour trouver en fait de nouvelles choses.
Moi, je sais que j'ai un cerveau qui travaille toujours en arrière-boutique et qui constamment écoute et filtre. Je sais pas, je sais qu'il y a un laboratoire intime qui est toujours en train d'accumuler et filtrer derrière. Après, je pense qu'il y a une gestation en arrière-boutique. Et je sais que j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Et je sais qu'il peut se passer un long moment sans rien. Je suis pas quelqu'un qui me travaille d'arrache-pied tous les jours au studio. J'ai un studio, mais je sais que je laisse place à des périodes où je vais rien faire. Et à un moment, il va apparaître souvent un petit bout de fil de pelote, et je vais tirer dessus en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai tiré dessus que je sais que là je vais pouvoir dérouler et que ça m'amène dans un voyage, une galerie, un sous-sol dans lequel je vais creuser, et il y a tout qui vient avec. Alors évidemment, c'est un travail, c'est plein de questionnements, de remise en question, de doutes, c'est parfois très pénible, mais je sais que tout ce travail de gestation, de maturation, de filtrage, en fait, de digestion des éléments sonores qu'on entend tous les jours, tout le temps, ça va se retrouver transfiguré, maquillé, transformé d'une façon ou d'une autre. Et je suis à la lampe de poche, cette petite galerie où je tire sur ce petit bout de ficelle. Et à un moment, ça donne quelque chose. À un moment, on arrive à un endroit d'équilibre, je ne sais pas pour toi, Vincent, à un moment d'équilibre, je me dis « Ok, c'est bon ». Je ne sais jamais pourquoi « Ok, c'est bon ». Mais ok, c'est bon. Alors
c'est
je sais
mystère,
pas ce que je cherche.
Quoi.
C'est ça que. Mais je le trouve.
Ouais, y a un moment où tu dis qu'il faut arrêter, quoi. C'est, même si ça pourrait continuer. Mais quoi, moi, j'ai. Quand on échafaude tout ça, et puis à un moment, voilà, on sent le. Ouais, c'est comme tu dis, c'est un espèce de moment où tu dis ah ouais, peut-être là il s'est produit un truc, c'est peut-être là, quoi. Mais puis après, on se dit ça va cartonner, quoi.
Sur toutes les ondes.
Oui, c'est la capacité, en fait, c'est ce que vous cultivez, ce que j'entends aussi, c'est un état de disponibilité dans lequel vous parvenez à vous saisir d'un hasard et d'une trouvaille que vous n'aviez pas cherchée, et qu'après, la question, c'est de savoir le suivre, quoi. Enfin, de suivre cette piste.
Oui, c'est ça. Et en même temps, je me rends compte, en réécoutant, en fait, parce que j'ai réécouté, hier, j'ai réécouté ce que je faisais. Je me dis, tiens, c'est bien, moi-même, je vais être un peu attentif. Non pas que je réécoute pas ma musique, je la réécoute plus ou moins régulièrement dans le temps pour voir comment elle vieillit. Et puis, c'est vrai que je suis le premier spectateur de ma musique. Moi, je crée des cabanes dans lesquelles je vais m'enfermer dans les bois. Si c'est des endroits d'abord faits pour moi, et puis je les offre aux autres. Mais c'est des endroits dans lesquels je suis bien, en fait. Je sais que, voilà, personne m'emmerde ici. Donc, c'est un endroit avec il y a mes petits oiseaux qui tournent autour.
Ouais. Et donc, t'es toujours bien dans ta cabane de 2009 que t'as écrit à Paris.
Elle est plus pénible, mais il y a des endroits aussi, des endroits de réconfort là-dedans. Et les endroits de réconfort dans Capitaine Présent 5 m'ont toujours cet effet sur moi. Mais c'est vrai qu'en général, je me rends compte que, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression de dessiner l'ombre des choses, parfois. Ou une représentation onérique des choses, ou un pas de côté des choses, du réel, en fait. Je sais que c'est toujours, il y a toujours un pas de côté à la fin. C'est toujours un angle de vue différent, une sorte de déformation. Ça finit toujours comme ça.
Donc ça serait ça, le fil rouge des albums, parce que tu parlais de fil rouge.
Oui, tout à fait, je pense. Oui, des mini-royaumes fondus qui s'interconnectent, et je sais que c'est là que je suis bien, enfin c'est là où j'ai ma place dans ce monde, j'ai l'impression. C'est peut-être ça, le petit monde en arrière-boutique. Ouais.
Alors je vous propose qu'on écoute une chanson de l'album Vue du Dôme, qui est un album de 2018 composé par Helg, et la chanson, elle s'appelle Oura.
test. Tornade. Genoux. Ressemble pas au choral. Gymnase. Elle chante en do, il chante en do. Enfin, oh. C'est peu, je crois. C'est ce.
Alors, ça n'a pas de forme, Oura. Elle parle de quoi cette chanson?
Sur le moment, j'en avais absolument aucune idée. Juste pour faire vite, Vue du Dôme, c'était le label Les Éditions Gravac qui m'avait proposé de faire un disque pour eux. Et puis évidemment, quand un label me... je suis connecté avec un label pour faire un disque, en général, je leur envoie une version. Et puis, ce qu'ils ne savent jamais, c'est qu'il va y avoir environ 59 versions derrière. Je les rends dingues. Et on en arrive à des... pour le coup, c'est une douzaine de morceaux de 3 minutes qui ont des structures de chansons, si on veut. Mais évidemment, pour moi, dans Vue du Dôme, j'ai jamais vraiment compris pourquoi je l'appelais Vue du Dôme, VU d'ailleurs. Mais en tout cas, il me semblait que c'était le point de vue du disque. Et j'aime le format de chanson. Je vais répondre. C'est pour arriver sur Oura, hein, je fais le petit détour. J'aime le format de chanson parce que c'est un laboratoire assez intéressant avec tous ces codes et ces restrictions qu'il y a à l'intérieur. Je suis un fan de chansons, de pop depuis toujours. De toutes les époques, de tous les pays. C'est la capsule, c'est la vignette, la chanson. C'est le truc qu'on emmène avec soi dans la tête, partout. C'est la ritournelle, c'est la mélodie. Et la mélodie, c'est la signature simple. C'est la signature, voilà. Pour moi, c'est la définition même de la musique populaire, c'est la chanson. C'est celle qu'on chante dans les champs en travaillant, c'est celle qu'on écoute en peine d'amour, c'est celle qui vous fait vous reconnecter avec tous les moments de la vie. Donc c'est vrai que ces formats-là sont...
Il y a une chanson qui dit ça, non?
Moi, je pense qu'elle dit tout ça, non? Elle dit tout ça.
La chanson de nos vies, tu as un truc dans le genre.
La chanson de nos vies.
C'est vrai que Oura, elle est particulièrement chanson. Par rapport à toute votre production, enfin ta production musicale, c'est vrai que...
J'ai sorti des chansons en 45 tours qui sont beaucoup plus chansonnesques que d'autres chansons que j'ai pu faire, des chansons guitare, voix, où j'aime l'écriture en français et les arrangements en guitare, clavier, des choses plus classiques. Mais c'est vrai qu'en Vue du Dôme, je me suis rendu compte, c'était à chaque fois, je me suis dit que c'était peut-être 12 fresques ou 12 petits snapshots d'une fresque. Et à chaque fois, c'était des gros plans. Et à l'intérieur de chaque morceau, en fait, il y a des effets de dilatation et de rétractation du temps. Donc à chaque fois, c'est comme si on était arrivé dans quelque chose, on en prenait un bout et on repartait. Et donc je me suis rendu compte qu'Oura aussi, il y avait une sorte d'effet cinématographique dans celle-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être deux chansons en une. Il y a une structure de chanson qui démarre. On attendrait un certain type de structure. Il y a un carambolage au milieu. Donc Oura, en fait, c'est que des bribes de mots. On parle d'un gymnase, on parle d'une chorale, on parle d'une chorale, en fait. On parle d'un gymnase, en tout cas. J'aimais bien le mot gymnase ce jour-là, je m'en rappelle. On parle d'une Saint-Sylvestre, on parle de 3-4 éléments qu'on peut reconnecter, plus ou moins. Une brisure cognitive, on ne sait pas trop, on saute ailleurs. Et on se retrouve sur un truc très mélodique et très chanté, avec... Ça pourrait presque faire penser à des chansons de... Enfin, c'est super, j'ai pas son nom, donc on est bien. Ah, mon Dieu. Mathieu Bogart. Je n'ai pas spécialement écouté Mathieu Bogart, mais je pense que ce jour-là, ça a dû un peu me traverser. Des choses un peu fragiles, comme ça, avec des petits accords plaqués. Et d'un seul coup, on se retrouve là-dedans pour assez vite perdre la chose. Mais je pense qu'il y a un effet de frustration. C'est l'effet Godard, c'est l'effet un peu protestant. Quoi. Ah, et ben non, salut. truc moi-même qui m'énerve en tant qu'auditeur, mais ça me semblait pertinent de le faire à ce moment-là. Donc, ça n'a pas de forme, ouais, tout à fait. J'ai pas du tout répondu à la question.
Pas du tout, mais c'est pas. Non, ce que j'aime bien, c'est que dans cette chanson, les mots, ils viennent décrire, voire encourager en fait la musique. Enfin, j'aime bien la manière dont les mots sont. Il y a un aspect descriptif en fait, c'est-à-dire que effectivement, t'appelles la chorale. Je sais plus, il y a plusieurs couleurs qui sont évoquées, et puis ouais, ça n'a pas de forme, oura, elle chante en do, quoi. Donc il y a quand même, et puis je pense que quand elle chante en do, c'est un do, non?
Pas du tout, non. À chaque fois, je me dis, le chant en do, le chant en fa, le chant en do, d'ailleurs, qui est complètement pitché au bout d'un moment. C'est une fausse route. Pour moi, ça fait toujours rappel à la mémoire, en fait. C'est-à-dire, c'est des images mentales, en fait, qui sont floues et qui se dissipent. C'est toujours cette histoire d'évaporation dans pas mal de choses que je fais aussi. Ça vient, c'est net, ça se dissipe, ça repart, c'est déformé, ça repart, ça fond, ça revient. C'est toujours les mouvements du mental, en fait. C'est un truc, c'est, ouais, la source d'inspiration première, elle est là, en fait. Comment est-ce que ça se fabrique à l'intérieur et comment ça apparaît, comment ça disparaît? Comment un son meurt et comment un son naît et comment un son meurt. Et une image naît, une image meurt. Pareil pour un souvenir. C'est un peu d'histoire de souvenir. Allez, ça y est, c'est répondu à la question.
Alors justement, parlons-en de dissipation de la langue. Parce que vous faites en fait beaucoup usage de la langue. Enfin, c'est un matériau sonore en soi, je pense, dans vos travaux respectifs. Il y a la voix enregistrée, la voix qu'on vient ramener, on va dire, peut-être chez toi, Vincent, des enregistrements. Là, comme on a pu l'entendre, par exemple, dans Mémotechnie, il y a ces voix un petit peu distordues qui ont cette espèce qui crachent un peu le passé, quoi, qui viennent, on a l'impression qu'elles viennent d'assez loin.
Oui, c'est un peu les voix des spectres, de tout ça, devant toutes ces expériences, ce dont je t'ai un peu parlé hier, là, les électro-voices phénoménales. Bon, ça, c'est, il y a pas mal de musiciens qui ont un peu travaillé là-dessus. Après, moi, j'ai pas. Ces électro-voices phénoménales, c'est les gens qui enregistrent, qui enregistrent et qui, quand ils réécoutent la bande, pour faire court, ils entendent des voix, en gros. Alors, ce qu'on appelle les voix des fantômes, tu vois, et ça, c'est des choses qui ont été expérimentées, qui sont de l'ordre du spiritisme et tout ça. Bon, alors, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, on entend des voix. Bon. Alors, bon, il n'y a pas d'explication finalement très véridique ou plausible, en tout cas autour de ça. Mais c'est des phénomènes, en fait, qui des gens disent, par exemple, quand on en émission radio, par exemple, quand on envoie.
J'allais te poser exactement la question. Est-ce que c'est vrai, ça? On a des bribes du passé qui tournent autour de la Terre.
En fait, dans un rapport, dans le rapport physique technologique de l'idée, du principe, c'est que émettre un son, le propulser par onde hertzienne dans l'espace, dans la stratosphère, le son ne s'arrête pas. En fait, il est réceptionné à un moment, mais il se propage, en fait, il est propagé. Et on pourrait supposer que par moment, en écho, ça revient. Voilà. Supposé, hein, je dis bien. Et en tout cas, il y a des gens certaines personnes l'expliquent de cette façon-là. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, bon, c'est, j'ai pas travaillé que là-dessus, mais bon, ça, c'est une des histoires les plus, en tout cas, prégnantes de tout ça, en tout cas, qui a été développée par des gens comme Constantin Rodin. Quoi, c'est des choses qui datent depuis pas mal de temps, hein, et puis qui sont aussi liés à l'idée de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à pouvoir enregistrer et à réceptionner des choses comme ça, à les fixer sur un support, ça engendrait tous ces phénomènes-là, en fait. En tout cas, il y a des gens qui, à un moment, certaines personnes se sont complètement inventées. Je pense qu'il y a une partie d'invention autour de ces phénomènes. Et je ne veux pas dire qu'ils font semblant. Je pense qu'ils ne trichent pas, mais c'est comme les histoires des tables tournantes. Faire parler les esprits, voilà. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Bon, bref, c'est un autre truc, mais...
Ou la télépathie par Anderson.
Voilà, ouais, exactement. C'est des trucs que je trouve complètement fascinants, curieux. Après, je suis pas un... Comment dire un, un adepte à fond de tout ça, mais ça m'a questionné. Puis je trouvais que ces enregistrements, quand on peut les écouter comme ça, c'est effectivement très chargé, c'est rempli, quoi. Il y a c'est forcément incarné de quelque chose, quoi.
C'est une matière, ouais.
Et voilà, du coup, c'est à partir de ce principe-là, en tout cas, ces choses-là qui... Il fait que moi, toutes les voix que je peux avoir dans certains films comme ça, c'est presque des voix qui reviennent de loin, quoi, comme ça, qui arrivent de loin. Mais je suis pas non plus dans l'idée d'un truc qui réfère tout le temps à une mémoire. Je pense que la mémoire, elle est vive, elle bouge, quoi. Et du coup, on...
Mais ça, c'est l'idée du fantôme, justement. Ouais, enfin, voilà, le spectre, ouais, il est présent, il est distant et présent, et il est...
Et
enfin, il désarticule le temps, quoi, en fait. C'est ça qui est intéressant par rapport au son,
ouais,
aussi.
Ouais. Et exactement, il y a un rapport au temps, d'un temps, de temps différent, successif, d'un passé qui à un moment ressurgit, qui devient un présent et qui potentiellement va devenir quelque chose d'autre et se projette dans un futur. Et l'auditeur, il peut imaginer autre chose avec ça et interpréter. Et c'est un peu ça. Et puis après, j'aimais bien aussi... certains disques de documents de parole, des disques, il y a eu une grosse production, une période où le support vinyle ou enregistré comme ça était prégnant, était le support central de ce qui pouvait se faire. Et on n'a pas fait que des musiques sur disque, il y avait beaucoup de disques de pédagogie, de propagande, de publicitaire, d'information, voilà. Et à un moment, je m'étais amusé à récolter ce genre de production, des fois complètement absurde. J'ai beaucoup de disques d'hypnose, par exemple, je trouvais ça vachement... Ça me fascinait, quoi. Et en les écoutant sortis de leur fonction première, je trouve que c'est des objets poétiques incroyables, dans certains cas. Méthode de Castagnette vachement intéressante. Par exemple, il y a des trucs complètement improbables qui ont été faits, évidemment, dans plein de langues différentes. Voilà, je trouvais que ça rejoignait des choses qui renvoient à des formes artistiques qu'on peut connaître, du type lettriste, poésie sonore et tout ça. Mais là, ça avait une fonction très précise à l'époque, qui était une fonction souvent d'information et qui n'était pas du tout liée à un travail d'auteur ou d'artiste. Mais je trouve que juste en tant qu'auditeur, pour certaines choses, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi des trucs qui sont pas trop intéressantes, mais sinon il y a des fois des surprises, je trouvais assez géniales, quoi. Et voilà, bon, il y a pas mal de gens qui ont travaillé, mais quand je l'ai utilisé, souvent c'était pas l'idée de mettre une voix samplée sur un fond de musique. C'est vraiment le prendre comme matière principale première de pour élaborer quelque chose, parce que bon, ça c'est aussi, on connaît un peu cette histoire-là de gens qui font des petits emprunts, quoi, qui empruntent des voix comme ça, qui réfèrent. Moi, je voulais pas que ça soit une référence trop directe, en fait. J'aime bien qu'à un moment il se produise autre chose que juste l'emprunt et la citation premier degré, quoi, en fait. C'est pas un travail de citation réellement, en fait. C'est plutôt une appropriation d'éléments comme ça, à partir de qui devient une matière et dans lequel j'investis autre chose, en fait.
Oui, puis il y a cette tension entre les enregistrements la musique un peu utilitaire, quoi, c'est-à-dire qui était utilisée dans des contextes précis.
Fonctionnelle, qui avait des rapports à la fonction, qui n'était pas forcément dans l'idée de faire une création, mais qui pouvait servir à autre chose.
Et, qui sont quand même souvent liés à des phénomènes un peu inexplicables, quoi, c'est-à-dire
non,
impalpables.
Non, pas tout le temps, mais quand je parle de disques fonctionnels, c'est des choses très concrètes et très souvent précises, plutôt de méthodologie. Après, tu as des listes de gens qui ont fait plutôt de l'ethnomusicologie, mais ça, je travaille type Folkways et toutes ces collections-là. Bon, ça, c'est de l'archéosonore, c'est un travail d'ethno. Ça, moi, je travaille pas du tout. Je fais une ethnologie, en fait, personnelle, qui est liée à l'idée d'aller chercher des choses comme ça qui sont finalement un peu des fois oublié au rebut, au rancard en fait. Mais du coup, effectivement, je peux me dire que je peux être ethnologue de je ne sais quoi, mais de voilà. Mais je me sers pas de documents qui sont liés à l'ethnologie musicale, hein, par exemple. Ça, c'est
non, je parlais plus, par exemple, de ces musiques qui sont liées, comme tu disais, à l'hypnose, par exemple, dans Xénoglossie, il y a aussi l'idée, c'est quand même un phénomène assez inexplicable, ce qui fait que les gens.
Bah, c'est l'idée de parler des langues sans les avoir
voilà,
appris.
Voilà, c'est ça. C'est quand même surprenant comme phénomène. Enfin, il y a quand même l'idée d'avoir aussi ces phénomènes-là.
Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais. Et puis, pour revenir au truc d'hypnose, en fait, je suis parti de plusieurs disques. En fait, j'ai repris les voix. Et puis, en fait, je peux parler un petit peu de ce truc-là parce que ça, finalement, ce qui s'est produit était marrant parce que. J'ai refait une méthode d'hypnose à ma façon, en partant d'éléments déjà existants. Mais la vraie modification que j'ai fait, c'est tourner le disque au doigt et l'enregistrer pour que ça rajoutait encore un élément. Ça faisait de perturbation. C'est le disque, c'est comme si on écoutait un disque en étant bourré en fait. Et ça fait avec une voix comme ça. Bon, ça c'est renforcé encore ce phénomène hypnotique d'une manière presque un peu triviale. Du coup, c'était l'idée aussi de le présenter comme un vrai disque de méthode d'hypnose, par exemple. Et je sais qu'il y a des gens qui ont un peu cru au truc. Ils pensaient que c'était un vrai disque d'hypnose ou comme un disque de son défect. Ils l'ont vraiment, ce que j'avais fait, comme un vrai disque de son défect. Ça a pu se retrouver dans des vidurniers. J'ai eu 2-3 de gens qui m'ont dit « Ah ouais, j'ai acheté un super disque de son défect. J'avais pas vu que c'était toi qui l'avais fait. » Mais ça, je trouve ça, la boucle est bouclée, quoi. C'est quoi, il y a un moment, c'est retour à l'envoyeur, à l'origine, c'est pas mal, quoi. C'est aussi l'idée que la fonction et l'usage potentiel d'un disque, par exemple, elle peut être autre chose aussi. Elle peut s'ouvrir un peu par moment, comme ça. C'est pas uniquement ça, je le fais pas que dans cette logique-là, mais si ça peut aussi resservir pour d'autres choses, je trouve ça pas mal. C'est une réappropriation qui peut se produire après coup.
Et toi, Laurent, il y a aussi des fantômes dans ta musique ?
Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a même pas mal. D'ailleurs, une anecdote par rapport au disque Move Zone. C'est assez drôle ce qui s'est passé parce que je l'ai appelé Move Zone, je cherchais le titre du disque. Move Zone, c'est deux voyages de 18 minutes où, pour le coup, on s'enfonce. On part d'un effet de dilatation du temps, d'une scène de famille dans un jardin, et on part. Et on s'enfonce dans des couches de dans des niveaux, des étages de perception différents, qui pourraient ressembler ou à de l'hypnose, ou à du rêve, ou à du coma. On en ressort, on revient, on part carrément, même derrière, comme si on partait. C'est une sorte de visite de planète pour revenir dans des états plus ou moins conscients. Et c'est marrant, j'ai cherché un titre et il y a un moment, ça me semblait juste Move Zone, parce que ça marche autant en français qu'en anglais. Et je me suis rendu compte que Move Zone, c'était un essai d'un des disciples d'Aleister Crowley, qui s'appelle Kenneth. Et je ne sais plus son nom, voilà, super. Qui a écrit ce traité dans les années 60, s'appelle Move Zone. Okay. C'était assez étonnant parce que c'est les états de perception, des états de perception autres, qui vont très très loin, qu'on ne peut pas trop définir, qu'il essaie lui-même de définir, qu'il a atteint lui-même par l'usage de drogue ou non. Donc là, ça m'avait fait un choc un peu étrange parce que là, pour moi, ça bouclait une boucle aussi assez étrange de cette personne qui cherche autour de ça, qui cherche autour des activités ésotériques, spirituelles, spiritistes, et qui se retrouve à nommer son essai comme ça, que je me retrouve par hasard là-dessus aussi.
Donc ça correspondait à quoi chez lui, la Move Zone alors ?
La Move Zone, c'est quelque chose dans lequel on plonge, dans lequel on s'enfonce, et dont on n'est pas sûr de ressortir vivant d'ailleurs. Voilà, c'est des états de perception. Des états de perception, des niveaux inférieurs, très profonds, dans lesquels on s'enfonce, où le temps se dilate, ou se rétracte, où le réel se transforme totalement, il peut devenir totalement cauchemardesque, ou totalement extatique, et on ressort de cette expérience différente. Après, ce serait prétentieux de dire que si vous écoutez Move Zone, vous allez. En tout cas, on n'en ressort pas totalement, on en ressort un peu autre, quoi.
Mais c'est vrai que autant il y a un temps désarticulé, bon, je pense un peu chez vous deux, mais chez toi, il y a aussi, je trouve, une idée de distorsion spatiale, pour moi. C'est-à-dire des allers-retours un peu constants entre une sphère un peu domestique, en fait, où il y a des sons assez communs, des bruitages de, je sais pas, d'un environnement assez familier, des babillages, et puis en même temps la présence quand même assez récurrente de l'univers, quoi, du cosmos, comme si on changeait tout le temps un peu d'échelle.
Ouais, c'est vrai.
Ta musique, c'est un peu toi, tu parlais de voyage, ouais, c'est un déplacement, en fait.
Et c'est un carambolage, en fait. C'est un télescopage, pardon, de... Effectivement, quand on va très très loin, quand je dézoome, en fait, quand on part dans une vision plus large et plus cosmique des choses, ça m'intéresse toujours de mettre aussi dans un autre plan quelque chose de beaucoup plus familier et domestique. C'est toujours cette histoire de contraste, c'est peut-être ça qui vient de la musique concrète, j'en sais rien, c'est vraiment de mettre en contraste des choses qui n'ont peut-être rien à voir, mais qui permettent de les mettre dans un même sphère et de les appréhender au même instant, au même endroit, en fait. Mais évidemment dans des rapports d'espace différents. Donc il y a toujours ce rapport d'arrière-plan, c'est-à-dire que la plupart des choses que je compose, plus loin tu mets ton oreille, tu entendras toujours quelque chose, en fait. Il n'y a pas de fond, le puits est sans fond, toujours. Et j'aime bien cette idée, même que ce soit dans une chanson, où il y a toujours quelque chose qui se passe, toujours, on peut toujours tendre l'oreille très 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 loin, et on a quelque chose aussi toujours qui peut être très très proche, et quelque chose qui est très loin. Donc il y a toujours cet effet d'échelle, de macro, micro, tout le temps. Et effectivement, ça permet d'amener des états d'écoute assez particuliers, des états de perception un peu particuliers.
Ça s'apprend, ça, de savoir placer son oreille plus ou moins
non,
loin.
Non, après non, c'est chacun de, il y en a qui vont être butés, d'autres qui vont pouvoir se balader là-dedans, d'autres qui vont voir plein de lianes auxquelles s'accrocher, d'autres qui vont être perdus. Comme je te disais un peu hier, je donne toujours une petite clé, quoi. Hein, c'est la clé du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je donne sur la petite clé, il y a toujours une petite grille de lecture. C'est pas un mode d'emploi, mais un petit rapport tacite avec l'auditeur. Voilà la porte d'entrée. Il y a un toboggan. Et après, à vous de glisser, quoi. Mais j'aime bien cette idée.
Pas le lapin, quand même.
Si, moi, je suis. Si, ouais.
De temps en temps.
Si, si, mais j'aime bien ce rapport un peu, ouais. Un peu carolien ou chose. Ouais, c'est le terrier, quoi. Ouais. La porte du terrier. On rentre dans le terrier, on ferme la porte et on glisse, quoi. Mais c'est, à mon avis, ça peut même être des rapports à des cauchemars d'enfant. Il y avait vraiment cette sensation de glisser. Vraiment, la sensation des cauchemars enfant, elle reste souvent toute sa vie. On se souvient toujours de 2-3 cauchemars très puissants. Et moi, j'avais vraiment cette sensation très prégnante, très puissante, d'être attrapé par une force obscure venue d'un temps et d'un âge autre qui m'attrapait, qui me tirait vraiment. Et là, je me rappelle qu'il y avait une sorte de distorsion temporelle, de dilatation de l'espace, où j'étais avalé. J'étais avalé dans une sorte d'espace, de cave, d'antichambre de quelque chose. Et qu'on me régurgitait à un moment. Voilà. Bah, Mozone, c'est un peu ça pour le coup. Mais un peu toutes les autres musiques diffusées. À des niveaux différents.
Oui, totalement. Ben, merci à tous les deux.
Merci à toi.
D'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Et puis, bonne suite de festival Interférence. À vous. Oh, wait, I'm gonna have some makeup. Busy. Okay, what should I do now? Oh, yeah, I know. More red. Thank you. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Diana Dobrescu, performeuse musicienne qui participe au festival Interférence, donc ici au Centre Wallonie-Bruxelles, sous le nom de Danse Divine.
That's me.
Bonjour Diana.
Salut, ça va Elsa?
Très bien, et toi?
Cool, super heureuse d'être au festival qui n'a pas été annulé.
C'est une chance. Alors j'ai cru comprendre que tu avais en réalité plus d'un avatar.
Yes.
Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes identités qui te constituent ?
À fond. Là, tout de suite, c'est en face de Diana. Du coup, c'est plus la fille qui se retrouve à voyager quand elle peut pour son travail. Mais sur scène, c'est vrai que j'essaie de fluctuer entre trois avatars différents qui ont un peu une même ligne directrice. Assez engagée autour de l'écoféminisme. Maintenant, c'est sûr que chacune des identités prend une forme artistique différente. C'est-à-dire que je suis toujours autour de la musique dans la composition. Monica Kinolta, ce sera un ghost teller, comme ça t'avait intrigué. C'est ce truc où la voix est très furiesque, très énervée, va commencer à pas mal revendiquer faire connaître des injustices qui sont faites aux femmes à travers le monde et les mettre en son. Beaucoup plus noise que, par exemple, mon autre identité, Danse Divine, qui, elle, est beaucoup plus pop culture, dans une rythmique peut-être même plus binaire, avec des musiques plus dansantes et qui cherchent aussi à divertir le public, plus qu'à peut-être le poser quelques questions. Et puis, quoique, parce que c'est vrai que dans ces deux identités, il y a ce rapport aussi très... femme qui se tait pas et en fait entité qui crie, qui hurle, qui chante, qui pleure, qui notamment avec le nouvel album que je sors de Danse Divine, c'est un côté beaucoup plus dark dans des temps métastables avec un langage métastable qui est inspiré par l'astrologie. Et oui, la troisième identité que je présente au Festival Interférence, le cyborg Amazon. Le cyborg qui, à la différence de Monica et de Danse Divine, Monica Kinolta et de Danse Divine, le cyborg, lui, s'arme d'un costume audio, un contrôleur MIDI que je porte sur scène et qui me permet de, en live, donc pendant la performance, de contrôler les effets et les modulations, les interférences qui seront faites par les effets sur la voix, en fait. Et qui, du coup, crée une sémiologie musicale différente et des séquences sonores différentes à travers la composition de la voix, principalement.
Alors, on va revenir sur ce cyborg Amazon que tu vas présenter demain, samedi.
Oh yeah.
Moi, la question que je me posais, c'est justement dans quel contexte tu mobilises ces différentes identités ? Parce que j'imagine que tu, en fonction de là où tu te produis, où tu performes, tu fais appel à eux différemment. Voilà, en gros, dans quel contexte Yes. tu les mobilises chacun ?
Mm-hmm. C'est sûr que, par exemple... Ouais, c'est une bonne question, on ne l'a jamais posée. Et c'est vrai que c'est un peu cette idée de pouvoir adapter son personnage au lieu et puis vice-versa, que le lieu s'encadre bien pour le personnage qui s'y propose. Et par exemple, Danse Divine a une tendance à autant jouer dans des bars où il y a 10 personnes que dans des festivals où il y en a 1000. Enfin, encore faut-il que ça arrive aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que... chacune des identités s'adresse à des publics variés et aussi impose une réceptivité, encore une fois, enclin à faire réfléchir ou à divertir, quoi. Donc Danse Divine aura beaucoup plus de facilité à s'adapter au mood et à improviser avec ce qui se passe, alors que le cyborg Amazon qui sera présenté ici dans le cadre du festival, lui, enfin, cette performance cherche à questionner aussi l'ère data en fonction de la conscience humaine qui évolue dans un conditionnement technologique. Moi-même étant humaine dans un contrôleur, voilà, je pense qu'il y a aussi tout ce rapport de langage et qui est réinventé au travers de l'écriture de la performance. Et oui, je pense que c'est pas... déjà, le cyborg est assez vulnérable, vu que c'est un prototype. Mm-hmm. il suffit que quelqu'un jette de l'eau, c'est bon, il est foutu, quoi. Et donc l'idée, ce serait de toujours le présenter après une certaine période de recherche en résidence artistique dans un lieu encadré qui permette aussi de bien cerner le propos. Et généralement, c'est plus des festivals de recherche digitale ou en tout cas qui sont autour du son, quoi.
En tout cas, tu navigues entre pas mal de publics, j'imagine, différents, que ce soit dans le milieu de la nuit. J'imagine que c'est totalement différent dans un club de performer dans un centre culturel comme celui-là. J'imagine que la réception du public n'est pas la même. Peut-être on va en reparler avant. Je pense que
je vais juste ajouter un truc par rapport à la quarantaine, maintenant que j'y réfléchis et que cette question vraiment m'interpelle. Tu vois, par exemple, le personnage de Monica Quinolta, le troisième, le fantôme, un peu plus dans l'embryon d'une agonie. En enclin de créer des scénarios d'horreur à travers la musique. Mais en fait, avec la période du Covid, il y a ce truc où les live streams se sont pas mal développés, les concerts en ligne et donc aussi les formats plus, je dirais pas obscurs, mais plus personnels et aussi transmédia. Et Monica Quinolta cherche à faire ça aussi. Donc vraiment être plus dans le digital et moins dans le contact physique, quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc là, demain, tu vas être au contact de nouveau du public donc pour cette performance Cyborg Amazon que tu as un petit peu évoquée déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont cette performance a commencé, dont elle est née et peut-être nous parler aussi du dispositif que tu évoquais, que tu utilises, en fait, que tu portes à même le corps et qui permet de moduler en fait, ta voix, la musique. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce dispositif DIY?
Yes, ça a commencé comme ça, quoi. Ça a commencé en février 2019 en mode DIY avec un collectif qui s'appelle Ersatz à Bruxelles, collectif de théâtre, une compagnie. Et du coup, on s'est dit, bon, ce serait quand même pas mal de pouvoir créer des histoires autour d'un futur dégenré où la technologie sert, la machine sert l'homme, mais que ce soit toujours dans une confusion, un conflit qui où le territoire n'est pas la carte, en fait. Et du coup, on a commencé à se dire bon ben on va prendre un petit Teensy ou un Arduino, c'est des petites plateformes, des petites cartes qu'on peut coder en fait, et puis on va commencer simplement avec des switches, des potards, et on va essayer d'avoir une armure quoi de cyborg qui peut contrôler sa voix en live. Puis on s'est dit quand même ça serait pas mal d'avoir des enceintes pour que le son sort directement du costume et qu'on passe pas à connecter en fait dans des enceintes externes qui rediffusent le son, parce que du coup ça fait que tu es autonome avec ton son, quoi. Donc on a commencé à commander des trucs, on a lancé le dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous soutient, qui a soutenu le projet et qui soutient toujours le projet, et du coup en 2 semaines on a monté dans un atelier tout le costume, ce qui a laissé en vrai, peu de temps pour répéter avec le costume lui-même, mais c'est vrai que ça a permis de s'adapter très vite à la machine et aux sonorités, parce que l'idée avec ce costume, c'est que tu entends directement le son que tu produis. Et il n'y a pas d'interférence, en fait. Donc ça, c'est assez chouette, parce que les enceintes, le micro est ciblé. Donc voilà, donc c'est pour parler encore une fois du costume, c'est en gros ma voix qui passe par un micro Madonna, un Betasher 54, qui lui est directement repris avec des codings sur un Teensy. Ce Teensy-là, avec le signal du Teensy, va être en fait modulé en fonction des switches que j'active ou désactive pendant la performance, qui eux sont gérés par les gains, donc les potards. Je suis en train, on voit pas la radio, mais je suis en train de me toucher le corps pour expliquer le. Yes. Et du coup, voilà. Et ça repasse par les enceintes. Et bon, j'aime bien avoir 4 enceintes pour faire une diffusion 360.
Donc ta voix, elle sort d'où alors ?
Ben voilà, elle sort de mes ovaires et de mes couilles. Non, c'est-à-dire que j'ai 4 enceintes et l'idée, c'est de pouvoir avoir un aspect androgyne et aussi armure de guerrière, d'où le nom Amazon en fait. Tu vois.
Oui, parce que tu mobilises toute une imagerie liée quand même à la théorie féministe, que ce soit le cyborg, donc cette figure qui a été pensée par Donna Haraway, qui est mi-homme, mi-machine, enfin mi-homme, mi-humain, mi-machine, dont les attributs justement n'appartiennent plus à ce que l'on pourrait considérer comme traditionnellement masculin ou féminin. Yes. Et puis l'Amazone, c'est cette guerrière justement qui elle aussi échappe à la détermination du genre et qui est associée au mouvement féministe dès les années 70. Donc tu t'opères une espèce de syncrétisme entre ces deux figures. Moi, je me demandais comment ça... Donc on comprend que ton costume, il est très influencé par cette imagerie et il en découle directement. Je me demandais aussi comment ça informe ta manière de chanter. Bon, tu as un peu répondu, c'est-à-dire que la voix, elle sort plus nécessairement de la bouche.
Oui, c'est ça.
Sort d'ailleurs. Et par rapport à ta musique aussi, je me dis qu'est-ce qu'on entend, en fait, dans cette performance ?
Eh bien, c'est vrai que, du coup, la voix, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus diffuse parce que c'est sûr qu'on voit le micro sur scène. J'avoue, je n'ai pas réussi à le cacher comme un micro-cravate que tu peux mettre sur ton front et en fait, c'est genre ton bindou. Mais le micro Madonna, tu le vois tout de même, cette petite boule. Mais elle est diffuse sur toute la partie. Sur toute une partie du corps, quoi. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus intriguant, je pense. Maintenant, dans la composition musicale, vu, comme tu dis, il y a ce truc-là au niveau vocal qui est beaucoup plus performatif et aussi dans une certaine recherche de vocal, la composition de la pièce, en fait, je l'ai un peu poussée sur... des layers de voix qui se basent sur aussi des fréquences autour des chakras, des fréquences qui stimulent et qui résonnent avec différentes parties du corps. Et je trouve que c'est assez féministe dans le sens où le corps, pour une femme, est quelque chose qui est souvent représenté sous certaines catégories, sur certaines manières de voir les choses physiques. Et du coup, je voulais un peu repartir d'une manière un peu plus scientifique pour diriger une composition autour des fréquences et de pourquoi est-ce que, par exemple, la voix qui est beaucoup plus basse, genre quand tu fais tu viens stimuler toute une partie basse avec des fréquences basses qui résonnent avec une partie basse du corps. Et tout ça en montant effectivement vers le chakra de la couronne. Et dans la pièce, il y a ce rapport-là aussi binaural, des fréquences binaurales et d'une composition qui se fait un peu plus de manière... une recherche biochimique, j'ai envie de dire, en fait.
Ouais, plus éclatée aussi dans le, dans le corps. Enfin, c'est ce que je comprends, aussi, de faire résonner d'autres parties, ce qui est assez intéressant. Et...
Après, c'est toujours la question de est-ce que le public ressent un peu ça ou pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des feedbacks qui me parfois, après les performances, me disent « bon, c'est vraiment un truc assez englobe. Enfin, ça apprend, quoi, ça happe. » Et il y a même un côté thérapeutique, quoi. C'est un peu ça aussi l'idée, c'est que de voir à quel point, dans la recherche de son, on peut aussi offrir une performance qui ne soit pas juste frontale, mais aussi participative dans la composition sonique.
Alors, tu parlais au début de l'interview d'écoféminisme. C'est vrai que donc, tu viens de sortir un album.
Oh yeah.
Dark Goddess Yod Transmutation.
Ah, si vous ne l'avez pas, allez le chercher, il est sur Bandcamp et SoundCloud.
C'était le petit jingle. Donc, dans ce titre, tu invoques aussi la figure de la déesse, donc qui est là clairement reliée à l'écoféminisme. Je propose qu'on écoute un extrait éponyme.
Yes.
Thank you.
Donc je disais que c'était un album que tu avais enregistré pendant le confinement. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit ou...
Ah oui, Dark Goddess, ouais. Yeux de Transmutation, ce deuxième album de Danse Divine, je l'ai effectivement enregistré pendant le confinement, un peu avant. Je suis partie aux États-Unis et l'avantage d'être sur la route aussi et d'avoir un ordinateur, c'est, tu vois, genre, tu es sur ton programme. Moi, j'utilise Ableton, par exemple. Et en fonction de ce qui devient, bah, tu composes sur la route. Et par exemple, en passant la frontière entre le Canada et les États-Unis, j'ai fait face à beaucoup de racisme pendant ne serait-ce qu'un passage de frontière, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée pendant 24 heures dans un bus à faire une track, Kali Katana, qui est dans l'album, d'ailleurs. Et avec un clip aussi, tout un montage de clip, parce que j'étais vraiment dans le feu, la vénéritude, enfin, super énervée par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai qu'après... ce voyage, le confinement a commencé et pendant 3 mois durant, il y a eu cette espèce de coming out du dark side, d'une énergie beaucoup plus assumée, moins dans l'empathie, moins dans la compassion, de la compréhension de tout ce que ce monde nous réserve en vrai, et du coup dans une espèce de mise en voix et mise en image d'une révolte personnelle, individuelle, spirituelle. Ouais.
Et tu parlais aussi beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que c'est un album où tu as encore plus pris en compte des questions, je ne sais pas, comme on parlait d'écoféminisme, voilà, de cycles naturels, d'astrologie de...
À fond. Yes.
Comment tu travailles avec ça, en fait?
Bien, par rapport au métalangage de l'astrologie, j'ai un peu une recherche en fonction des transits planétaires qui existent tous les jours. Tout le temps, partout, temps et espace. Et aussi avec les constellations de différentes personnes avec qui je collabore, leur carte astrale quand ils sont nés. L'idée, c'est que l'astrologie se divise en 2 paramètres assez clairs. C'est la géométrie et les symboles et les signes et les maisons. Et du coup, en fait, là-dedans, on peut comprendre des codings énergétiques humains qui correspondent plus ou moins à des comportements. Mon idée là-dedans, c'est de pouvoir aussi ramener un métalangage dans des temps métastables, vraiment, où c'est pas ce qui se passe le lendemain, avec un contrôle de surveillance qui nous appartient pas vraiment, en tant qu'individu, en vrai. Et je pense qu'aller chercher à l'intérieur de soi permet aussi de mener un combat réel, autonome, pour développer une spiritualité, enfin développer un... En tout cas, moi, ça m'a permis de développer une certaine autonomie créative. Et du coup, je parle de transmutation. Et la transmutation, c'est autant ce qui se passe dans les centrales nucléaires, transformer le plomb, transformer l'uranium en plomb, que transmuter l'énergie sexuelle du corps humain vers un flot créatif assez naturel, quoi. Du coup, c'est un peu ça, le confinement. Et puis cet album est né. Et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, je me suis plus mis de frontières. Tu sais, quand tu es en confiné, je ne sais pas si toi, c'était ta réalité, mais moi, j'étais toute seule. Vraiment toute seule. Et j'ai réussi à convaincre mon père de tourner un clip avec moi, celui de Durgar Kirunga dans la forêt. Et au début, il n'acceptait pas du tout. Vraiment, ça a été un peu le trauma parce qu'il ne voulait pas clipper sa fille avec des porte-jartelles et rasée, tout en blanc, vampire, avec du noir partout. Genre sorti d'un film de Cronenberg. Et finalement, on a passé outre ça. Et ça nous a même rapprochés à fond, en fait, parce qu'il a vu une partie de moi qu'il ne connaissait pas. Et il l'a acceptée. Et il a fait partie du projet créatif. Du coup, ça, c'est un petit moment immortel qui fait que je suis très contente de l'avoir dans l'album, quoi.
Alors justement, l'esthétique qui est liée à cet album, parce que, alors bon, là, les auditeurs, les auditrices ne peuvent pas voir la pochette de l'album. Je ne sais pas si c'est toi qui fais tes propres pochettes. On voit donc une sorte, effectivement, de déesse qui serait un mélange entre plusieurs, on va dire, origines culturelles, religieuses. Est-ce que tu peux nous dire un peu... ce que c'est que ce personnage.
Yes. Je remercie déjà Nicolas Emmanuel Pérez pour avoir fait cette cover de Malade. C'est vraiment carte blanche par rapport à ce que je lui avais envoyé comme track et ce que je lui avais le projet dont je lui avais parlé, tu vois, genre enclin à la Shakti. Shakti, pour parler un peu de justement ce symbole qui est représenté sur l'artwork. Il y a eu toute cette question aussi de l'appropriation culturelle, de pouvoir se dire, est-ce que, attends, tu es légitime de commencer à mélanger pas mal de symboles qui appartiennent à des cultures religieuses. Et puis en même temps, l'idée, c'est de défendre aussi des nouveaux symboles anciens, mais de les remettre au goût du jour pour, j'allais dire empower, pour donner un peu plus de puissance à des mouvements où notamment le pouvoir manque au niveau de la symbolique. Je pense. Et du coup, ouais, la cover, tu vois genre une créature super puissante avec un... Enfin, tu l'as vu, quoi. Et à vous d'aller voir, si vous voulez, sur SoundCloud ou YouTube ou Bandcamp. Elle est vraiment inspirée de Shakti et du coup de Durga, Kali et j'en oubliais une, Sarasvati Sextile. Et du coup, c'est l'idée d'avoir toutes ces mains qui sont pluridisciplinaires. Et ça revient un peu à ce travail qui est transmédia, en fait. L'album qui est autant imagé que sonore, que de la musique. Et de pouvoir aussi prendre toutes ces armes, parce que dans l'album, en fait... Petit à petit, je travaille tous ces traumas et je dis, ok, bon, là, je peux plus agir de la même manière que dans l'autre album. Donc, je prends des armes. Et ces armes-là me permettront de faire face au futur. Mais c'est autant figuré que transmuté vers une réalité nécessaire, je pense, à l'heure actuelle, de prendre des armes et de savoir se défendre en fonction des circonstances, pour des femmes, pour des hommes, pour des personnes trans, pour des personnes non-binaires, surtout. Et voilà. Du coup, l'idée, c'était de... prendre des armes choisies en fonction de ce qu'on veut mettre en place, quoi. Et oui, l'artwork permet d'avoir toutes ses mains pour avoir le fléau d'armes, le katana que je viens de me tatouer, d'ailleurs, tiens. Je t'en avais
parlé. Elle vient de se tatouer le katana, je confirme.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, Diana.
Yes, merci à toi.
Et puis, bon courage pour demain, bonne performance.
Thank you so much.